Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondybloccentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café.
Rejoins la rédaction
www.bondybloccentre.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la précarité étudiante avec différentes diffusions de témoignages émanant du monde étudiant. Nous allons écouter dans un premier temps au campus une fédération d'associations étudiantes avec Jade Delpy, la présidente de cette association, qui témoigne sur les difficultés que peuvent rencontrer les étudiants. Une petite précision concernant une question qui sera abordée au cours de l'interview. Il s'agit de la précarité menstruelle. Sachez que la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, Madame Vidal, a annoncé que les protections hygiéniques seraient prises en charge à la rentrée 2021-2022 pour les étudiantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3. Aujourd'hui, nous recevons Jade Delpy. Jade Delpy est présidente de l'association Au Campus, la fédération des étudiants d'Orléans, des assos étudiantes d'Orléans. Ce sont plus de 30 associations qui adhèrent à Au Campus. Jade Delpy en est la présidente depuis novembre 2019. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, pour commencer cette interview qui va se faire en deux temps. La première partie, on va parler de la précarité étudiante et puis après, nous allons revenir sur les élections de la présidence de l'université. Concernant la précarité étudiante, est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux de la situation que traversent les étudiants actuellement ?
Oui, tout à fait. Cette crise pandémique a relevé de nombreuses difficultés du côté des étudiants. Donc, tout d'abord, il y a une précarité au niveau alimentaire, au niveau de l'accès à l'alimentation. Il y a de nombreux étudiants qu'on a pu interroger au cours d'une enquête étudiante qui nous ont fait part de leurs difficultés à s'alimenter. Donc, sur à peu près 1000 étudiants interrogés, il y en avait quand même 27,3% qui disaient ne pas pouvoir se nourrir à leur faim durant la période du premier semestre de l'année 2020-2021. Donc c'est quand même un chiffre qui est énorme et qui augmente par rapport aux années précédentes. Donc oui, 27,3% des étudiants n'ont pas pu se nourrir à leur faim durant la période des examens et du premier semestre 2020-2021. Cela est dû majoritairement à une perte de revenus parce que beaucoup d'étudiants n'ont pas réussi à trouver d'emploi ou ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Et certains aussi ne peuvent plus être aidés par leurs parents qui ont eux-mêmes des difficultés financières à cause de la crise. Donc beaucoup d'étudiants ne peuvent pas bénéficier d'aides mises en place par le CROUS, etc. Et il y a aussi un manque de communication sur ces différentes aides, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne s'alimentent pas à leur faim et qui mettent en difficulté leurs conditions d'études.
Alors, vous avez parlé de manque de communication au point de vue local, régional, national.
Il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place par le CROUS, des aides ponctuelles que tous les étudiants peuvent bénéficier. Il y a des aides avec le service de santé universitaire, des psychologues gratuites, également au CROUS avec Absiline qui a été mis en place. Mais malheureusement, les étudiants n'ont pas connaissance de ces aides et ne les sollicitent pas. Et du coup, c'est une communication qui est vraiment à améliorer, même avec les associations. Il y a la Pléate aussi qui donne des aides, le planning familial. Toute cette communication est à améliorer, en effet.
D'accord, très bien. Vous avez parlé des difficultés alimentaires. Quelles sont les autres difficultés que rencontrent les étudiants en cette période de crise sanitaire ?
Alors, majoritairement aussi au niveau de l'accès à l'enseignement. Donc, l'enseignement étant distanciel, pour le suivre, il faut avoir du matériel qui est suffisant. Donc, une connexion suffisante à Internet, du matériel informatique aussi qui peut supporter parfois les logiciels, le fait d'avoir cours en visio toute la journée, etc. Et malheureusement, sur les étudiants, encore une fois, qu'on a pu interroger lors de l'enquête, il y a un étudiant sur deux qui affirme ne pas avoir un matériel informatique suffisant pour répondre aux besoins des cours en ligne. Et 65% des étudiants affirment avoir rencontré des difficultés liées à la connexion Internet. Donc, quand, par exemple, on passe des partiels ou quand on a des cours en ligne et qu'on a des difficultés à les suivre, ça peut être vraiment, vraiment très handicapant et très stressant. Et c'est ce qui fait que, au niveau de la troisième difficulté des étudiants, c'est la difficulté psychologique. Toutes ces précarités sont entraînées sur les difficultés psychologiques derrière.
Alors, les difficultés psychologiques, il y a eu le chèque psy, par exemple, qui a été déclenché par le gouvernement. Est-ce que les étudiants sont suffisamment informés de son existence et y accèdent comme ils y ont droit?
Alors, il faut savoir que pour accéder au chèque psy, il faut prendre rendez-vous chez un médecin généraliste et par la suite, qui nous prescrivent ces séances, donc ces trois séances, dans un des psychologues, un ou une psychologue qui aurait accepté de faire partie de ces séances gratuites offertes par l'État. Donc en fait, les conditions sont assez difficiles pour un étudiant de contacter un médecin généraliste qui aujourd'hui, surtout dans notre région, c'est assez difficile d'en trouver, et de deux, d'avoir trois séances. Malheureusement, trois séances, c'est pas suffisant pour des étudiants qui sont en difficulté psychologique majoritairement. Et en plus, il faut que le psychologue ou la psychologue soit en accord avec cette mesure. Et donc, du coup, il y a une liste de psychologues qui sont en accord.
D'accord. Est-ce que les services proposés par la médecine universitaire, il y a des psychologues, il y a des numéros de téléphone également qui sont disponibles, sont suffisants selon vous?
Alors, les psychologues nous ont affirmé avoir que très peu d'appels en ce deuxième confinement par rapport au premier. Et c'est vrai que c'est un constat qu'on ne comprend pas, parce que le nombre d'étudiants qui sont dans le besoin augmente, et pour autant les psychologues, elles, ne sont pas plus sollicitées. Donc on pense vraiment que c'est dû à un défaut de communication gratuite, que c'est aussi sur des plages horaires très grandes, et aussi n'osent pas parfois faire la démarche d'y aller parce qu'ils se disent qu'il y a pire qu'eux et qu'ils sont pas si en difficulté que ça. Donc il y a plusieurs problématiques, mais on pense que vraiment une communication devrait être améliorée.
D'accord. Et d'autres priorités alimentaires, hein, par exemple?
Tout à fait.
Voilà, et les études également. Très bien. Concernant l'objet de votre association, donc, qui est une fédération des assos étudiantes et qui a notamment pour objectif de proposer, alors je vais carrément citer ce qui est écrit sur votre page Facebook, pour objectif de faciliter la communication et le partage entre les associations, organiser des événements et contribuer à la vie étudiante orléanaise, comment se porte votre association actuellement?
Alors, la vie associative en période de Covid est assez compliquée parce que tout ce que les associations normalement génèrent par du présentiel, avec de la cohésion, de l'échange entre les différentes générations, etc., c'est vraiment mis en danger. Et du coup, ce qui fait que les associations doivent se réinventer. Donc déjà, il y a beaucoup plus d'axes sur la représentation étudiante et la défense des droits. Donc, on essaie vraiment de recenser au maximum les besoins des étudiants et d'y répondre. Et dans un second temps, on essaie d'amener de la distraction avec des réseaux sociaux. Donc, ça peut être sur Instagram avec des lives. Ça peut être sur Discord. On a un groupe Discord où les étudiants, où parfois on fait des animations le soir. Comme mercredi soir, il va y avoir une animation sur notre Discord. Et les associations, nous, on les aide aussi à créer des Discords et à créer du lien entre les étudiants pour que toutefois cela ne se perde pas. Malgré cette crise.
Quelles sont les activités que vous proposez en distanciel?
Alors nous, on incite vraiment à ce que ce soit nos associations qui fassent des événements, parce que c'est nos associations qui sont les plus proches des étudiants. Nous, notre but, c'est de fédérer les assos. Donc nous, tous les lundis, on a le lundi des assos, ce qui s'appelle, où on relaie tous les événements de la semaine organisés par nos associations. Donc en ce moment, il y a du côté du BDE Polytech, il y a plusieurs événements qui sont organisés. Chaque association, en fait, peut toutes les semaines proposer quelque chose. Et nous, on a des paroles libres qu'on organise sur notre Discord les mercredis soirs et qu'on reprend à partir de mercredi. Donc, vous le verrez dans la publication de ce soir.
Voilà. Très bien. Comment nos auditeurs, auditrices là, qui nous écoutent peuvent-elles justement contribuer à apporter des dons qui seront redistribués après aux étudiants?
Alors, sur le site, OSEM, du coup, a créé un site. Donc, c'est OSEM, il y a un site internet où il y a une cagnotte qui est en ligne, où si jamais vous pouvez vous pouvez déposer, enfin vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez en donner directement sur cette cagnotte qui est très sécurisée, ou sinon les contacter directement auprès de leur adresse mail qui est également sur leur site pour pouvoir aider en termes de voilà de besoins humains, parce qu'il y a aussi besoin de bras pour porter toutes ces quantités, les décharger, les installer et les distribuer aux étudiants. Donc il y a plusieurs façons d'aider, mais chacun peut aider aussi à sa façon.
Oui, alors pour contacter OSEM, c'est pas compliqué. Vous tapez asso-osem.fr et vous allez tomber sur la page avec une cagnotte en ligne, effectivement. Et puis, vous trouverez justement toutes les coordonnées, tous les contacts sur le site. Donc la semaine dernière, l'Université d'Orléans a enfin trouvé son président en la personne d'Éric Blond. En tant qu'étudiante, comment avez-vous vécu les élections ?
Alors, c'était houleux. Moi, je suis aussi élue au conseil d'administration de l'Université d'Orléans. Donc j'ai eu l'occasion de suivre de très près toute cette aventure. C'était houleux et c'était pesant, on va dire, en termes de stress et en termes de sollicitations et de pression également. Ça a été soulevé et mis en garde par M. Sarfati il y a quelques temps. Les pressions que les étudiants ont reçues sont totalement anormales et assez scandaleuses par rapport à leur vote. Et en tant qu'étudiant, le fait de ne pas avoir de gouvernance qui puisse aussi faire avancer les projets, même en tant que responsable associatif, on était bloqué sur de nombreux projets et ce qui bloquait aussi la défense des étudiants.
Personnellement, vous avez subi des pressions ?
Oui, on en a subi au travers de notre page Facebook, surtout, dans les premiers temps. Après, nous, on a été aussi à la fédération, on est aussi très franc et très cash et on a essayé d'être clair avec tout le monde en le disant en CA, en fait, au conseil d'administration, après un ou deux conseils d'administration, dès qu'on a reçu des critiques ou des menaces directement, surtout des critiques, pas tant de menaces que ça, mais vraiment des critiques.
Des intimidations sur votre page Facebook, c'est-à-dire ?
C'était en commentaire suite à nos décisions de vote, des critiques. En fait, il faut savoir que malgré le fait que les votes sont dans l'isoloir et sont anonymes quelque part, en fait les membres font des calculs et très rapidement savent qui a voté pour qui, et du coup si c'est pas leur enfin si c'est, ça ne relève pas de leur choix, et ben ils en profitent pour pouvoir se permettre de commenter les votes des autres, en fait. Donc voilà, des fois c'est des membres du CA et des fois c'est des membres extérieurs au CA.
D'accord. Comment est-ce que au campus a pesé dans la balance concernant les élections ? Parce qu'on peut lire dans la presse que c'est grâce notamment à votre association, enfin entre autres, et au désistement de deux autres personnes, qui se sont retirées. Et apparemment, c'est donc grâce à votre fédération d'étudiants que le vote a pu se faire, puisqu'il y aurait eu notamment des promesses d'une meilleure écoute. C'est ça ? Enfin, qui vous a fait ces promesses ?
Alors nous, il faut savoir que là on était au sixième conseil d'administration et que ça faisait déjà un mois qu'il n'y avait pas de président d'université. On voyait qu'il y avait de nombreux organismes qui étaient bloqués, de nombreux conseils qui étaient bloqués, et on voulait prendre une décision raisonnable pour pouvoir faire avancer les choses, parce que derrière on a 20 000 étudiants et beaucoup d'étudiants qui ont voté pour des représentants qui font avancer l'université et pas pour des représentants qui la bloquent. Donc on a pris cette décision de voter pour un président pour avoir justement cette gouvernance qui soit en place, et on avait vraiment besoin avec Monsieur Blond de développer cette écoute qui est nécessaire pour les représentants et pour les étudiants pour pouvoir avancer, pour pouvoir co-construire des projets, et c'est vraiment notre ambition de pouvoir co-construire tout au long de ces années de mandat.
D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait au campus de la nomination d'Éric Blond, de son élection, pardon ?
Si nous avons fini par voter pour lui, c'était d'un côté pour débloquer, mais notre vote était quand même pour Éric Blond. Et nous pensons qu'au vu de des démarches sur lesquelles on est parti, que nous pouvons faire ensemble avancer l'université, et nous attendons beaucoup de Monsieur Blond pour la faire avancer. Que ce soit au niveau de son image, que ce soit au niveau de son ambition, je pense qu'il est conscient du travail qu'il a mené, et on espère qu'il en est conscient, et je pense vraiment qu'il en est. Et on espère aussi que le message est passé sur le... on espère aussi que le message est passé sur le fait qu'on avait besoin d'écoute et besoin de co-construire et de se faire entendre aussi en tant qu'étudiant.
D'accord. Quelles sont vos attentes sur son mandat ?
Alors, il y a plusieurs attentes pour ces quatre années à venir. Il y a tout d'abord, on a été assez clair là-dessus en termes de recrutement. Il y a beaucoup de d'UFR au niveau de l'administration qui manque de personnel ou qui manque de personnel formé parce qu'il y a eu pas mal de turnover et de personnes qui n'ont pas été rembauchées. Et malheureusement, on fait face à des problématiques de non-réponse de la part des administrations face aux demandes des étudiants de mail, enfin par mail, etc. Donc tout d'abord, oui, un recrutement qui est assez important. Également au niveau des infrastructures qui soient suffisantes par rapport aux besoins des étudiants et à leur accueil. Le nombre des étudiants augmente chaque année et le matériel doit répondre aux besoins des étudiants. Et également des réponses concrètes face à la précarité, donc la précarité alimentaire, la précarité menstruelle, la précarité psychologique, qu'il y ait une communication qui soit vraiment plus effective avec le CROUS, avec le service de santé universitaire. Et globalement, oui, c'est vraiment les points à développer. Et aussi au niveau du numérique, vraiment un accès numérique généralisé.
Alors, vous avez évoqué une problématique que nos auditeurs auditrices ne connaissent peut-être pas, la précarité menstruelle. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs auditrices qu'est-ce que c'est que cette précarité menstruelle ?
Alors, la précarité menstruelle, c'est le fait pour une étudiante de ne pas pouvoir répondre à ses besoins, enfin ne pas avoir les besoins nécessaires pour pouvoir en période de règles se protéger de manière suffisante. Donc il faut savoir qu'en France pour acheter du matériel c'est assez cher, c'est un coût, et en difficulté financière qu'on peut avoir, où des étudiants nous disent à partir du 10 du mois qu'ils n'ont plus d'argent du tout sur leur compte et certains ne peuvent même pas s'alimenter, et au niveau des besoins hygiéniques, c'est la même chose. Et ce qui fait que c'est un besoin physiologique, les femmes en ont besoin et malheureusement, elles n'arrivent pas à répondre à leurs besoins. Donc, il y a une généralisation dans certains pays et certaines régions aussi qui s'engagent à mettre des distributeurs dans tout leur lieu d'enseignement supérieur et d'enseignement au niveau du lycée. Et je pense que ça devrait être généralisé sur tout le pays et dans notre région parce que le besoin est trop important et malheureusement, les étudiants n'arrivent pas à y répondre.
Bien sûr. Merci pour cet éclairage. Alors, je crois que c'est l'Écosse qui a rendu les serviettes hygiéniques gratuites, il me semble. Voilà, un exemple à suivre. Et c'est vrai que ça représente un budget annuel conséquent, puisque c'est la nature. Justement, c'est à l'humain, j'allais dire, de rendre les humains égaux entre eux face aux lois de la nature. Et c'est vrai qu'il y a donc une discrimination qui est faite aux femmes, notamment sur leur budget en ce qui concerne les règles. Merci pour cette précision. Les événements à venir pour Au Campus.
Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs projets sur lesquels on travaille aussi en ce moment pour répondre aux besoins des étudiants, notamment sur la précarité alimentaire qui est un besoin qui doit être résolu extrêmement vite. Nous à notre échelle, on s'est rallier quelque part aux différentes aides étudiantes parce que c'est difficile d'organiser une distribution alimentaire aussi. Et du coup, l'OSEM prend très bien cette charge et nous, on se permet de les aider et de les aider en termes de communication et en termes de besoins humains lorsqu'il faut aider le jour J. Et par ailleurs, on travaille aussi en lien avec d'autres associations, en lien avec d'autres instances sur la création d'une épicerie solidaire. Donc, pour ce faire, on aura aussi besoin du soutien de l'université et c'est pour ça qu'avoir un président, c'était aussi urgent pour nous, pour ces différents projets. On travaille également sur la mise en place d'une plateforme de soutien intergénérationnel, d'aide de soutien psychologique, mental, entre des habitants et des étudiants, des habitants de la région et des étudiants. On travaille sur plusieurs projets qui ont vraiment pour objectif d'aider les étudiants qui sont dans le besoin. Déjà, et après, on a aussi des, d'autres projets. On élabore aussi des guides des masters. On va faire aussi une semaine de prévention contre le handicap. On a plusieurs projets pour les semaines et les mois à venir.
Et ben voilà, ça fait pas mal de choses. Merci Jade Delpy.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.
De rien. À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Je vous propose à présent d'écouter une émission qui a été réalisée au Centre social à la Maison pour tous, Roltangui, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Une émission menée par Manon Le Soliec, qui a accueilli 3 étudiants.
Bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui sur Radio Roltangui. Je vais vous laisser vous présenter.
Très bien, je m'appelle Ilias Rakhini, je suis étudiant à l'université d'Orléans, en droit, en master, et engagé dans de nombreuses associations.
Bonjour, moi je m'appelle Charlotte Adamzak, je suis en master en géographie à l'université d'Orléans, et pareil, je suis aussi investie dans plusieurs associations, dont beaucoup avec Ilias.
Bon, bah bonjour, moi je suis Hugo Le Soliec, je suis en première année de licence d'anglais, SDL, et à l'université d'Orléans aussi, et c'est à peu près tout.
Ok, donc dans un premier temps, on va faire un retour en arrière, un bond dans le temps, et je vais vous faire de la peine, mais la vie d'un étudiant en février 2020, c'est comment ?
Alors, février 2020, je dirais que je sortais de boîte, je dirais que j'étais très sobre, hein, évidemment, et que je me demandais où est-ce que j'allais voyager la semaine d'après, ce qui du coup n'est plus tout à fait le cas.
Bah, c'était un peu la même parce que juste fin février, je suis partie à Budapest avec mes potes et c'est au retour, c'est parti en cacahuète.
Je veux dire un peu la même chose, mais nous on sortait, oui, on avait fait une petite soirée à ce moment-là en février. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tout a commencé, tout a été vachement plus compliqué. Hein, c'était drôle.
Et oui, parce que le 16 mars 2020, début du confinement, fermeture des universités, invitation à rejoindre le domicile familial, mais 25% à 40% des étudiants restaient dans leur logement exigu. Fermeture des restaurants universitaires, perte des emplois étudiants, loyers maintenus sans source de revenus, demande en nombre très élevé de paniers repas solidaires sur les campus. Que ressentez-vous lors des annonces du 15 mars ?
Moi, je crois que je réalise pas trop. Je réalise pas trop, je me retrouve face à un président qui nous dit qu'on est en guerre et qu'on est en guerre contre une maladie. Donc, je trouve ça bizarre, étrange. Et je pense que je réalise pas. Je me dis, ça va durer un petit bout de temps et on va se remettre très rapidement de tout ça. Je suis un peu déçu, mais surtout en attente d'une fin et en me disant que ça va pas tarder à se finir. Je ne suis pas le plus grand des visionnaires.
Après, je ne me rappelle plus exactement le premier discours et le second discours, mais c'était le peu d'écart entre les deux, entre la fermeture de tout et le confinement. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, comment on pouvait fermer des trucs et deux, trois jours après se dire confinement, j'étais là, ah ok.
Moi, j'étais clairement, quand ça s'était annoncé, j'étais clairement sorti de. J'étais pas du tout chez moi. Du coup, je l'ai appris que quand je suis rentré. Et pile le soir où je suis rentré, ils fermaient les restaurants, toutes les universités étaient fermées. En fait, pour moi, je pensais pas que ça allait aller si vite, en fait. Et je pensais même pas qu'on avait besoin d'un confinement ou de quelque chose pour passer la maladie, puisque l'épidémie n'était pas si grave à ce moment-là.
Du coup, est-ce que les informations et la communication autour de la fermeture des universités, elle a été claire et compréhensible pour tout le monde à ce moment-là, surtout pour vous, les étudiants ?
Ce soir-là, où il y a eu la fermeture des universités, on était un peu perdus parce que ce soir-là, moi, je travaillais au Bouillon, qui est le centre culturel de l'Université d'Orléans. Et en même temps, j'organisais Berlin's Cup, qui est un événement sportif étudiant. Et le Bouillon, qui était un lieu fermé, le concert a pu se finir. Par contre, nous, on n'a pas pu commencer l'événement sportif, qui était en plein air. Donc, en fait, on était mélangés en mode les universités ferment et demain on a cours, mais on ne peut pas faire l'événement. Par contre, l'événement de l'université continue. On était un peu perdus sur ces notions-là.
Ouais, c'est ça en fait, un sentiment de perdition un petit peu. Mmh. On n'a pas compris, ça nous a un petit peu tombé dessus et non, il y a eu une incompréhension totale. Le soir même, il y a eu une petite vague de trop bien, c'est fini les cours de la part de pas mal d'étudiants avant de se rendre compte que c'était vraiment fini les cours. Donc non, le soir même, je pense, incompréhension.
Je retiens un peu la même chose, mais quand c'est arrivé, on n'était pas du tout préparé à que ça arrive en fait. On est, pour la plupart, on était encore dans nos cours, on était encore dans nos études et tout, on était concentrés dedans. Puis d'un coup, on nous coupe tout comme ça, puis pas moyen d'aller à la BU, pas moyen de chercher, d'aller sur le campus pour chercher, pour aller sur les ordi ou des choses comme ça, ou même voir les profs. La communication avec les profs, c'était une horreur au début, c'était impossible.
Et pour vous, vous êtes peut-être tous de la région, mais est-ce que vous avez vu autour de vous les jeunes, on les a soi-disant invités à rentrer au domicile familial, est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu des complications? Est-ce que vous avez vu des jeunes qui étaient bloqués chez eux sans savoir quand ça allait se terminer?
Bah, on l'a vu le soir même et on l'a vu les jours qui ont suivi jusqu'à ces derniers mois. En fait, il y a des étudiants qui ne savent pas vraiment s'organiser du premier confinement jusqu'à alors. Mais si on reste sur la période d'avant, ouais, non, il y a eu un est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois lâcher mon appart? Qu'est-ce que je fais? Et non, je suis perdu. Quoi.
Oui, parce que je pense qu'on s'interroge sur quand est-ce que les cours vont reprendre, du coup si je rentre. Ouais. Combien de temps il y a eu entre le passage du présentiel au distanciel? Au niveau de vos cours
Moi, à l'époque, j'étais déjà en master, mais j'étais en master 2, je finissais en master, et nous, il y a eu pendant presque un mois, on n'a pas eu de nouvelles.
Ok.
On n'a vraiment pas eu de nouvelles, parce qu'en plus, c'était un master en apprentissage, mais pendant un mois, on était en plein mémoire, on n'avait pas de nouvelles, on était vraiment perdus.
C'est un peu le même sentiment, on était clairement perdus, on nous donnait très bonne information, après, on n'en voulait pas trop à l'université en soi, parce qu'ils avaient l'air aussi perdus que nous, très peu d'informations, donc on était collectivement perdus.
Les échanges avec les professeurs, du coup, comme tu disais, on est longtemps
ouais,
à se...
Au début, ça a été vraiment difficile de se mettre en place. Personnellement, moi, j'étais encore en licence droit à ce moment-là, histoire droit. Et on a eu un côté où la fac de droit a plutôt communiqué assez vite. Par contre, l'histoire, on a pris un temps fou. On a dû mettre au moins un bon mois et demi avant de recevoir des indications, en fait. C'était un vrai problème au début, c'était Oui.
Et puis c'était la première fois que vous, enfin, entre guillemets, que vous testiez le distanciel, alors c'est comment?
C'est la pire chose, c'est vraiment la pire chose. C'est préférer le pratique, et encore, à l'humain. Et donc du coup, c'est perdre toute la notion de ce qu'est un enseignement, et on nous instruit plutôt qu'on nous enseigne. C'est vrai, le grand problème du distanciel d'apprentissage.
Il y a aussi beaucoup de profs, ça arrivait d'un coup, ils ne savaient pas quoi utiliser, ils ne savaient pas l'utiliser aussi. Donc souvent aussi, moi j'ai reçu des pavés de cours en mode prends. On les voyait qui étaient aussi perdus que nous et qui ne savaient pas utiliser. Ils ne savaient pas s'ils devaient utiliser Selenium, qui est le site de l'Université d'Orléans, ou Zoom. Ils étaient totalement perdus, ils ne savaient pas quoi utiliser.
Oui, quand le distanciel a commencé, pour la plupart, moi j'étais encore beaucoup en licence de fac de droit. Enfin, je ne vais pas l'inviter à chaque fois, mais... Et à ce moment-là, en fait, on a reçu... Il y avait des profs qui mettaient en place un cours en ligne, en visio et tout ça, qui n'était pas toujours excellent, mais qui était au moins histoire de garder une relation. Par contre, il y a des profs qui avaient juste abandonné l'idée et qui nous mettaient juste les cours sur CN en mode « débrouillez-vous et faites ce que vous pouvez ». Et okay. On a été lâchés là-dedans.
Est-ce que les examens de fin d'année scolaire 2020 ont eu lieu? Ou du moins, ont-ils tous eu lieu? Et si oui, sous quelle forme?
Nous concernant, ça a eu lieu en pur distanciel, sous des formes qui nous ont un petit peu désarçonnés au final, parce qu'on n'y était pas habitué. On est habitué à du présentiel, feuille, papier, oral. Du coup, là, tout était automatisé, ce qui a du coup créé de nombreux problèmes.
Après, moi, mes profs ont essayé de mettre en place de nouveaux moyens et éviter le contrôle terminal avec le partiel. J'en ai eu deux, et après, c'était beaucoup plus. Ils préféraient des dossiers, de tout ça. Pour faire le contrôle continu, nous laisser plus de temps, et ça a été plutôt cool.
Ouais, pareil, nous aussi on a eu beaucoup de profs qui ont préféré faire des petits dossiers à rendre ou histoire d'eux. Et on a eu beaucoup aussi de contrôles à faire sur Selenium, où c'était un peu galère parce que des fois les horaires n'étaient pas les bonnes et du coup on se retrouvait à attendre ou même à juste avoir limite le temps de le faire tellement on n'était pas du tout dans le bon temps. Mais sinon, à part tout ça, les partiels ont bien eu lieu. Et c'était compliqué, mais c'est passé.
Juste pour revenir, il y a une question aussi qui s'est posée pour moi très tardivement, c'était le fait que tous les étudiants n'avaient pas forcément d'ordinateur ou de bonne connexion Internet, et ça n'a pas vraiment été la première question. Ils étaient un peu dans l'idée, t'es étudiant, forcément t'as Internet, forcément t'as un ordi, et ils ont eu du temps à faire un recensement des étudiants qui ne pouvaient pas accéder à un ordi facilement.
Effectivement, c'est vrai qu'on a plutôt dans l'image l'étudiant qui a toujours sur lui son ordinateur, et pourtant c'est finalement pas le cas. Et sinon, la vie d'étudiant, c'est pas que les cours. Donc, c'est quoi la vie d'un étudiant confiné?
Bah, Je sais pas, je pense que ça va dépendre de tout à chacun, ça dépend aussi de notre capacité d'adaptation. Je sais que moi, au début, ça a été beaucoup de Netflix et de rien, du coup, ni chill, ni rien. Et ensuite, bah, j'ai essayé de me faire des petites routines en mode je vais faire du sport, histoire de pas non plus être juste le mec couché chez lui. Un petit peu de travail et surtout beaucoup d'associatifs.
C'est ce que j'allais dire, je sais que vous êtes dans plusieurs branches associatives et du coup, comment on le gère d'une certaine manière ?
Bah, le premier, c'était d'aider les étudiants qui étaient dans le besoin. Donc, ce qu'on avait essayé de mettre en place, c'était un Discord en faisant des activités pour éviter qu'il y ait des étudiants qui soient seuls. Donc, c'était des blind tests, des paroles libres, des choses comme ça, mais pour éviter la solitude.
D'accord, ouais, on restait vraiment dans le loisir, mais juste histoire d'être ensemble. Ok. La vie d'étudiant confiné, c'est donc ça. C'est aussi un manque d'interaction sociale, des difficultés financières grandissantes, un stress doublé lors des examens et peu de soutien moral, hormis les quelques visios à la famille et les amis. Et la vie d'étudiant confiné, ça donne le commencement d'un fléau. Le 8 avril 2020, le suicide d'un étudiant d'origine indienne au campus HEC de Jouy-en-Volas dans les Yvelines. Malgré cette horreur, et puis pour tous, étudiants ou non, la vie reprend un peu son cours. Et avec les beaux jours, l'espoir renaît, réouverture des restaurants, des bars, des cafés, des cinémas, programmation des vacances dans notre jardin ou pour les plus chanceux aux quatre coins de la France. La parenthèse heureuse un petit peu. Et puis, la rentrée. La rentrée 2020-2021 d'un étudiant en France, c'est comment ?
Je pense que c'était un début de joie, quand même un petit peu. En vrai, c'est ce qui se, c'est ce, dans cette période, ce qui s'est le plus rapproché de la joie. C'est-à-dire retourner en cours, pour certains, pour les premières années, démarrer une rentrée à l'université. Me concernant, je démarrais en master, donc du coup, je passe à un autre diplôme et un autre level. Donc j'étais content, découvrir une nouvelle promotion, etc. Tout ça. Donc un début de retour à la normale avec des conditions qui n'étaient pas les plus optimales, mais tout de même, on se disait, bon, bah, en fait, on est là, on se voit, c'est déjà mieux.
Après aussi, un mois d'août un peu stressant, parce qu'on n'avait pas spécialement de nouvelles de l'université, on ne savait même pas si on allait rentrer. On l'a vraiment su au dernier moment qu'on allait reprendre les cours, donc on était là, est-ce qu'on va retourner directement à du distanciel ou à un système hybride ? On n'avait aucune information jusqu'au dernier moment.
Ok, je sais que tu as changé de licence, est-ce que ça crée un stress supplémentaire du coup ?
Oui, parce qu'en fait, quand j'ai voulu changer de licence, déjà le site internet, vu que plus rien se faisait par
présentiel.
Et ben le site internet était vraiment sur il y avait trop de monde et du coup il y avait beaucoup de crash, pratiquement impossible d'aller dessus pour s'inscrire, c'est pas possible. Et finalement quand j'ai réussi à m'inscrire, le retour était tranquille, on avait les masques et tout ça, mais au moins on était en présentiel, c'était beaucoup plus tranquille, on pouvait avoir enfin une sociabilité comme un étudiant normal. Et finalement, ça n'a pas duré trop longtemps.
Hein. C'est ce que j'allais dire. Des retrouvailles rapides. Début octobre, on réduit la présence des étudiants sur les universités. Et alors qu'on s'avance un peu plus chaque jour dans l'automne, le coup retombe. Le 29 octobre, à minuit, la France est reconfinée. Même question qu'un peu plus tôt. On réagit comment aux nouvelles d'annonce de fin octobre ?
À titre personnel, j'ai été énervé. Mais vraiment énervé. Parce que je recommençais un début de vie normal, quelque part. Je commençais ma routine à la fois court, mais également le week-end, je partais sur une logique de partir un petit peu, de voyager, etc. Et avec toutes les conditions sanitaires qui s'entraînaient, mais du coup, je commençais à réenvisager une vie petit à petit normale et réjouissante. Et du coup, là, énervé parce que on me coupait dans mon élan et énervé parce qu'on savait, avec le premier confinement, ce que ça coûterait à pas mal d'étudiants que d'être de nouveau confiné.
Après, moi, j'étais un peu dans l'optique, je le savais, ça allait arriver. Enfin, le côté sur mon canapé, je m'y attendais. Donc, pas vraiment d'énerver tout ça. J'étais devant, en mode, ça donc santé, et encore une fois, ça va arriver.
Ouais, pareil, hein, de toute façon, nous, on a eu, juste avant que ça coupe tout et qu'on soit de renouveau en confinement, on était passé en hybride. J'ai fait une semaine en présentiel, où normalement, la semaine d'après, c'était les autres. Du coup, non, parce que ça a été confiné juste après. Et à partir de ce moment-là, ça a été le retour à la case départ, en fait. Hein. On ne pouvait plus socialiser, plus rien. Enfin, pour essayer de garder contact avec ceux de ta promo, c'était une galère. Puis en plus, vu qu'on avait commencé des trucs en groupe, pour les continuer et avoir les numéros ou les choses des étudiants avec qui on était en groupe, c'était aussi horrible. Donc,
alors que vous veniez de vous connaître, ouais. Effectivement. C'est intéressant ce que tu disais, Elias, parce que sans parler du côté scolaire qui est évidemment très important, avoir 20 ans en 2020, c'est compliqué, disait Monsieur le Président il y a quelques mois, et vous en dites quoi ?
Je dirais qu'avoir 20 ans, c'est compliqué. Je dirais qu'avoir 21 ans, c'est compliqué. Je dirais même qu'avoir 18 ans en 2020, ça l'est encore plus. Parce que pour nous, ça l'a été. Mais j'ai surtout pensé aux jeunes qui avaient 18 ans et qui démarraient leur scolarité à l'université. Et nous, quand on est arrivé à l'université, on avait des gens qui nous accompagnaient, des associations qui se créaient, des soirées qui s'annonçaient. Et donc, du coup, il y avait le côté, certes, scolaire qui est super important et qui est super réjouissant, au final. Mais on avait aussi le côté, on va rencontrer des tas de gens, on va vivre un petit peu ce qu'on nous a dit de l'université, les soirées, etc., tout ça. Et du coup, c'était archi cool pour eux. Du coup, ça a été, je pense, un choc. Et j'ai du mal à envisager la suite pour eux, quoi.
C'était un peu la même parce que j'ai repris des études maintenant dans un autre domaine en géographie. Donc je suis arrivée dans une nouvelle classe, l'effet de connaître des gens. Et bah, c'est un peu comme les L1 qui arrivent, ceux qui changent le cursus. On arrive devant des gens, on n'a même pas le temps de les connaître. Et pour les trucs de groupe, pareil, c'est en fait d'un coup, on arrive parce que le premier était plus simple, vu que c'était la fin de l'année, on connaissait les gens pour travailler, c'était plus simple. Mais c'était là, en fait, on va même pas pouvoir rencontrer du monde, on va pas pouvoir se faire de nouveaux amis. Et c'était ça qui était plutôt dur, que ça arrive aussi vite.
Oui, bah pareil. Quand j'ai commencé, moi quand j'ai commencé ma première année, il n'y avait pas eu, enfin le début de l'année, il n'y avait pas eu de confinement de tout ça. Et oui, quand on arrive, il y a du monde qui nous soutient, on va faire des fêtes, on sort beaucoup plus que quand on était au lycée, on a des fêtes qui s'organisent avec les associations. Bah, ça intègre dans la vie d'un étudiant, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on nous avait dit, on le vit.
Mais c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train, enfin, sans le vouloir bien sûr, mais qu'on est en train de voler la jeunesse de certains? Ce que vous avez pu vivre peut-être en étant un peu plus vieux, du coup.
Oui, vraiment oui. Hein. Bah, je te laisse continuer parce que ça revenait ça.
Oui, bah du coup, je pense que oui, il y a un bon côté où on se fait quand même voler une bonne partie de la jeunesse. Je veux dire, d'habitude, les jeunes, bah, ils sortent, ils voient des amis, ils peuvent faire des sortir en boîte, sortir dans les bars, sortir en resto, se voir entre eux. Mais du coup, là, impossible de se voir. En tout cas, pas du coup en boîte, en bar. Ou en restaurant. Pour se voir, même chez des gens, c'est une galère pas possible. Et même avec le couvre-feu maintenant, c'est toujours aussi galère. Hein.
C'est vrai. Reconfinement fin octobre, celui de trop. Début décembre, suicide d'un étudiant sur le campus de Villeurbanne. 8 janvier, tentative de suicide d'un étudiant défenestré à Lyon. Et 4 jours plus tard, une autre tentative de défenestration sur le campus de Lyon. Et la vague de tentatives et de suicides continue sur les campus de France. Qu'est-ce qu'on ressent quand on suit ce déferlement de détresse de vos camarades?
C'est désespérant. Honnêtement, c'est désespérant et ça peine de fou. Je pense pour tout étudiant, ça peine parce que c'est même nos pères, au final, qui tombent. Et égoïstement, je dirais même qu'en tant qu'associatif, c'est terrible. Parce qu'on se dit qu'on essaye d'aider les gens et tout au maximum. Et on sait que sur les différents campus où ont eu lieu ces suicides, il y a également des structures qui accompagnent. Et ça montre l'impuissance de ces structures face à une situation qui dépasse toute attente.
Et on a l'impression donc qu'il y a un délaissement du gouvernement. En fait, c'est surtout ça. Parce que nous, on peut les aider, mais on ne peut pas faire tout. Et en fait, que le gouvernement ne réagisse pas à ces tentatives de suicide, ça nous fait encore plus mal, quoi. On a l'impression d'être laissé à l'abandon.
Oui, je les rejoins sur cette idée-là. En fait, quand on entend tout ça, on peut comprendre pourquoi, enfin pas comment ils sont arrivés là, mais on peut comprendre ce qui les a poussés à en arriver là. On est ces gens-là qui généralement c'était des gens qui vivaient encore sur le campus, ils sont coupés du monde, ils vivent pratiquement que des récoltes des repas alimentaires.
C'est ça.
Sur les campus et ils voient personne, ils sont coupés, ça doit être horrible.
C'est vrai, et du coup, est-ce que vous pensez que la prise en charge psychologique, elle est assez importante auprès de vous ou des autres étudiants, enfin des étudiants en général?
Évidemment non. Ouais. Évidemment non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il y a un délaissement total. Et je dirais même, bah, ça a été évoqué, les distributions alimentaires qui viennent pallier un petit peu aux difficultés strictement financières des étudiants. Mais sur le côté psychologique, il y a un accompagnement pauvre, il y a un accompagnement qui peut se faire par les associations, par les professeurs parfois même, qui essaient tout de même d'être présents, mais ça ne remplacera pas un accompagnement d'État.
Bien sûr. Vous avez des professeurs comme ça qui prennent contact avec vous, juste pour le côté psychologique?
Oui. C'est souvent demandé. Par exemple, moi j'avais une fille dans la classe qui ne venait plus en cours, et le prof était là, est-ce qu'elle va bien et tout. Donc oui, ça se fait plutôt.
Est-ce que vous trouvez que les professeurs sont plus enclins à être dans cette démarche psychologique que le gouvernement, et du moins ce qui pourrait être mis en place?
C'est ce qui est dommage, c'est qu'au final, les professeurs, affichent une place qui n'est pas la leur. Mmh. Et c'est génial. Enfin, j'ai une prof qui, tout récemment, m'a dit, si vous avez des étudiants, vous savez, qui décrochent et qui ne sont pas très bien moralement, j'ai l'habitude, c'est de courir bord de Loire. Bah, dites-leur de venir courir et ça fait un petit élément de cohésion. Sauf que c'est bien et c'est génial de la part d'une personne, mais ça ne remplacera jamais un dispositif d'État qui est censé accompagner toute une population.
Puis un des problèmes, c'est que beaucoup d'étudiants sont là en mode, mais il y en a qui sont toujours plus dans le besoin, que ça soit pour les distributions ou pour le côté mental. Il y en a qui disent, ouais, mais il y en a toujours plus qui sont dans le besoin.
On essaye toujours de montrer qu'on... Enfin, on se dit toujours qu'il y a pire que nous, effectivement. Est-ce que, par contre, les aides financières de l'État sont suffisantes?
On va dire que c'est à la limite. Ils ont de quoi, ils sont logés. Bon, après, pour payer leur loyer, c'est une autre histoire. Hein. Mmh. Il y a eu beaucoup de galères au début. Bon, maintenant, ça a l'air de plus c'est régulé sur ce coup-là. Par contre, pour les repas et tout, bah, à part les aides alimentaires, ils n'ont pas de quoi se payer un repas, en fait. Ils sont toujours cantonnés aux mêmes choses. Donc, les aides financières sont limites.
Elles sont limites aussi du fait qu'il y a une partie des étudiants qui oubliaient, ceux qui sont non boursiers.
Oui.
Parce que j'étais non boursière et donc moi j'ai perdu mon job, j'avais pas spécialement plus d'argent et cette partie a été aussi pas mal oubliée. Oui, mais on va aider ceux qui ont des bourses, oui, mais il y a des étudiants qui n'ont pas forcément non plus énormément de moyens, qui ont perdu leur boulot et ceux-là ils ont été un peu mis de côté. Et on a attendu récemment pour avoir les 1 euro pour tous les étudiants, mais ça aurait dû être mis en place bien
depuis longtemps. Bien sûr. C'est peut-être un peu du chauvinisme, mais la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle propose à chaque étudiant de la commune une aide de 100 euros. Est-ce suffisant d'après vous et conseillerez-vous ce dispositif aux communes qui peuvent le faire, qui le peuvent?
Alors, ça sera toujours insuffisant, parce qu'à partir du moment où un étudiant doit se poser la question de comment je vais payer mon loyer et comment je dois manger, ça reste insuffisant. Mais c'est un premier pas. C'est un premier pas qui est fortement appréciable et qui, à mon sens, devrait être généralisé. Après, chaque administration saura comment gérer sa commune, mais c'est un pas qui est encourageant et qui donne quand même un petit peu d'espoir à une jeunesse un peu perdue.
Il y a la ville de Saran aussi qui vient de mettre ça en place et ce serait bien que les autres communes de l'agglo poussent ces initiatives.
Vous êtes chacun des étudiants du Loiret. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux élus, aux maires et plus largement aux dirigeants sur la situation des étudiants?
Je dirais que les maires, de ce que j'en sais en tout cas, sont assez conscients des choses. Et qu'ils essayent au maximum d'agir à leur façon, avec leur logique politique, mais qu'ils essayent. J'adresserais plutôt un message aux politiques, disons, d'en haut, et de leur demander juste d'ouvrir un peu les yeux. Parce que ça ne demande pas plus que ça. Ouvrir les yeux, je pense que c'est assez exposé aux yeux du monde, maintenant que les 2,8 millions d'étudiants sont en difficulté. Juste ouvrir les yeux et on le fait mieux en les ouvrant pour de vrai plutôt qu'en disant j'ai déjà fait ça.
Je suis un peu d'accord avec lui, c'est plutôt plus en haut où on leur reproche des choses parce que un maire peut faire déjà des actions, mais les problèmes à l'université sont bien plus grands que juste au niveau de la commune ou au niveau d'une aglo.
Bah, j'allais dire la même chose, mais je rebondis aussi sur le fait que, bah, par exemple, ils ont mis en place le fait qu'on va pouvoir revenir une seule journée sur le campus, mais en soi, c'est un pas en avant, mais bon, c'est pas non plus excellent, parce que déjà, il faut savoir comment on va le mettre en place, sachant que mettre une journée où on va pouvoir venir, il faut savoir si quel étudiant va pouvoir venir, si c'est toujours la même journée qui va être là toutes les semaines pour les mêmes étudiants, ou si ça va tourner. Il y a beaucoup de problèmes qui se mettent en place, et de toute façon, c'est pas assez, je veux dire, y aller une seule fois dans la semaine, ça nous redonne pas la sociabilité qu'on avait avant, ça nous redonne pas tout ça.
La motivation.
Voilà, la motivation elle est toujours pas excellente.
Et puis je pense que vous êtes un peu comme nous, de toute façon, vous marchez au jour le jour, vous voyez ce qui se fait, ça doit être d'ailleurs inquiétant vu les dernières, enfin ce qu'on vous a dit il y a une semaine et ce qu'on entend encore depuis quelques jours, enfin c'est un peu contradictoire du coup.
Ah, c'est d'une tristesse. Bah, avec Charlotte, elle a fini un parcours et moi j'entame un parcours politique et communication. Et on a l'impression qu'on voit en fait tout ce qu'on nous dit de ne pas faire en communication politique, agir sur le court terme, lancer des annonces pour tester une population, pour ensuite en faire le contraire. C'est vicieux, c'est peut-être malin politiquement, mais c'est très angoissant, c'est anxiogène pour des étudiants qui sont déjà au bout du rouleau.
Je voulais juste dire un truc, c'est que nous, par exemple, on a été dans la fac, du coup je suis en fac de l'ESH, littérature, sciences et je sais plus. Et donc je suis dans cette vague-là. Et en fait, on était censé revenir juste avant qu'ils annoncent les une journée où on pourra y aller. On était censé revenir en hybride.
Et oui, parce que t'es en première année.
Voilà, parce que je suis en première année. Du coup, on était censé revenir en hybride. Et à partir du moment où ils ont annoncé qu'on aurait une journée de libre dans la semaine, on n'a plus de nouvelles. Et l'université n'a pas communiqué sur si on y retournait ou pas, ou si ça se faisait plus. Du coup, je suppose que ça se fait plus.
Du coup, on est à 2 semaines de cette annonce et t'as toujours pas de nouvelles.
Toujours pas de nouvelles. Je pense que ça se fait.
Et puis, il y a nous, il y a les centres sociaux, les travailleurs de jeunesse et autres dispositifs. À notre moindre échelle, qu'est-ce que vous nous conseillerez afin de vous rendre la vie un peu plus facile?
Je pense qu'il faut créer du lien. Je pense que c'est ce qui est le plus essentiel. Des aides et tout ça, ça arrivera, je l'espère en tout cas, de plus haut. Je pense que le rôle, ou en tout cas la vocation qui est la vôtre, que vous essayez déjà de mettre en œuvre quand vous travaillez, c'est de créer du lien. Et je pense que c'est ce qui manque le plus aux étudiants aujourd'hui.
Je suis totalement d'accord.
Donc nous allons prochainement nous allier à une action proposée par le planning familial sur la précarité menstruelle. Et oui, même si on peine même à se nourrir, on peine dans chaque domaine des nécessités humaines. On estime à environ 18 euros par mois le coût de la protection hygiénique, des antidouleurs, etc. En gros, les règles d'une femme, ce qui représente 216 euros à l'année. En fin d'année 2020, l'Écosse a voté une loi permettant la gratuité des protections périodiques. De plus, les écoles, lycées et universités devront mettre à disposition gratuitement des protections féminines dans leurs toilettes. Qu'est-ce que vous pensez de cette avancée? Est-ce qu'on devrait suivre l'exemple de l'Écosse?
D'accord. Pour moi, oui, parce que c'est un truc qui est, sans parler des étudiants, déjà, par exemple, les femmes dans la rue, c'est quelque chose déjà qui est assez choquant, cette précarité menstruelle. Et au niveau des étudiants, oui, et peut-être aussi mettre des alternatives en place, parce que j'ai mon petit côté écolo, mais par exemple, les culottes menstruelles, c'est que ça a un vrai coût. Mm-hmm. Mais si on donne ça à des gens, ils vont les garder longtemps, et ça, à la fin, ça sera un moindre coût aussi pour l'État, pour les sociétés, pour
tout à fait.
Moi, je suis d'accord. En fait, tout ce qui va aller vers l'aide des populations et surtout dans cette crise-là qui nous permet justement de voir la précarité à l'ONU, ira dans le bon sens. Le gouvernement, il s'était engagé du coup à faire ça pour la rentrée. Apparemment, ça a été un petit peu retardé. Mais ouais, je pense que ça va dans le bon sens et il n'y a pas de raison de ne pas le faire.
Oui, c'est une chose qu'il faut faire. Hein. De toute façon, il y en a. On a l'Écosse qui s'y est mis et je veux dire, on n'est pas. Il faut que nous on s'y mette aussi, c'est une chose qui est importante. On en voit de plus en plus des personnes qui ont du mal à. Puis ça représente un coût, je veux dire, 216 euros par mois, c'est. Enfin, par an, je veux dire, c'est énorme. Et c'est une chose où je comprends pas en fait que ce soit pas déjà gratuit. Je veux dire, c'est médical, ça devrait être. Gratuit pour tout le monde en fait, enfin pour toutes les femmes en tout cas.
C'est quelque chose qui avait fait rire pas mal de gens qui se plaignaient de payer les masques, qui était quelque chose, un besoin vital, et on était là, et puis nous on paye des protections tous les mois, et ce qui coûte très très cher.
Malheureusement, le sujet des règles est encore un peu tabou dans notre société, mais est-ce que par exemple vous avez eu des discussions avec des étudiants autour de vous, qui sont en galère par rapport à ça, parce qu'on sait que le planning familial il fait des maraudes à l'université pour distribuer des protections. Est-ce que c'est un sujet dont vous avez pu parler avec ça? Certaines de vos amies?
Moi, en tout cas, non.
Moi, j'en ai parlé un petit peu parce qu'on menait un projet, du coup, avec la fédération dans laquelle on est, de proposer des distributeurs, du coup, de protection hygiénique. On s'était mis en contact avec un commerce du sud de la France qui préparait ce genre de distributeurs. Et avant, on s'était un petit peu renseigné auprès des étudiants pour savoir si c'était un besoin réel. Et moi, j'ai eu que des échanges qui me disaient qu'en effet, c'est une dépense, parce que c'est 18 euros par mois. Donc, 18 euros par mois, on se dit que c'est pas grand chose, 18 euros c'est un abonnement au final, sauf que 18 euros par mois c'est beaucoup de repas pour pas mal d'étudiantes, et comme ça a été dit, c'est un besoin qui est vital, donc pourquoi ne pas le dispenser dans la nation de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens.
Mais voilà, ça reste à vous, et comme les étudiants dans qui sont en précarité déjà ont du mal à le dire, juste au niveau de la nourriture, ça reste encore plus en tabou les règles, donc ça agrandit la chose.
Prochainement, une collecte sera organisée au sein des Maisons pour tous de Saint-Jean-de-la-Ruelle afin de récupérer des dons de protection périodique à redistribuer aux femmes et en particulier aux étudiantes les plus démunies. J'aimerais qu'on se penche un peu plus, en dernier mot, sur les associations et sur votre côté associatif étudiant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Vas-y, commence.
D'accord, je commence. On est plus engagés que jamais et on ne fait que de le répéter, on est disponible à 100%. Alors on essaye de se garder aussi un petit peu du temps pour nous, mais la précarité étudiante est devenue telle qu'on ne peut pas se permettre en fait, de laisser un petit peu de temps. Donc ce qui est superbe, c'est que tout le monde a compris, y compris les collectivités locales, donc la métropole, la région, entrent en contact avec nous maintenant sur des projets plus durables. Par exemple, on parlait de la précarité alimentaire. Mettre en place une épicerie solidaire sur le campus, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui risque d'arriver assez rapidement vu que la situation est criante. Et on a recensé les besoins des étudiants et les difficultés qu'ils ont rencontrées durant cette période. Et ça, je pense que Charlotte est peut-être plus à même d'en parler.
Mais moi, ce qui m'a fait plaisir pendant cette période-là, parce que je suis à la communication, donc déjà, on va essayer de faire de la communication sur toutes les distributions qui sont organisées, toutes les aides et tout ça, mais c'est aussi qu'on reçoit beaucoup de messages de retraités ou même des gens qui travaillent en mode « je veux vous aider ». Donc, il y en a qui proposent d'aller manger chez elles une fois par semaine. Il y en a qui sont là « est-ce qu'on fait une cagnotte ?» Enfin, en fait, depuis la fin du deuxième confinement, il y a énormément de solidarité de d'autres personnes et ça fait très très plaisir parce que c'est vrai que pendant longtemps, la précarité étudiante, déjà de base sans confinement, existait à peine. Aujourd'hui, ça a encore du mal à exister auprès du gouvernement pour qu'ils sortent des trucs. Mais là, en fait, depuis la fin du deuxième confinement, les gens voient de plus en plus cette précarité et ils nous aident vraiment. On reçoit même des messages gentils en mode c'est super ce que vous faites et ça fait beaucoup, beaucoup de bien.
Est-ce que vous avez l'impression que la population se rend plus compte de la précarité étudiante que le gouvernement ?
J'ai l'impression. Au début, ça avait du mal à rentrer. Je l'ai observé même dans mon cadre proche, au final.
Même chez les gens, là.
Et des gens ouais, qui disaient qu'on exagère un peu, quoi. On exagère un peu, on n'est pas en train de faire la guerre non plus, quoi. Ça va, tu vas chez toi, tu regardes Netflix. Au fur et à mesure, ils ont commencé à comprendre un petit peu l'impact que ça avait parce que c'était sous leurs yeux. Des étudiants qui se suicident, c'est pas bénin. Des étudiants qui vont aux distributions alimentaires dont on voit les queues s'augmenter au fur et à mesure du temps, c'est des images qui choquent. Et dans un pays qui se vante d'avoir une jeunesse qui produit, une jeunesse qui innove, bah, ça frappe de voir que cette jeunesse qui innovait aujourd'hui souffre.
Et ça me fait penser à quelque chose, on a fait des petites interviews avec les jeunes de Saint-Jean-de-la-Ruelle juste après le confinement. Et justement, je leur posais une question qui revenait assez régulièrement, puisqu'on entendait les gens dire oh, « ça va, vous êtes jeune, puis vous êtes tranquille, téléphone, Netflix, tout ça ». Et je pense que c'est une question qu'on peut vous poser aussi, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces gens-là en fait ?
Alors déjà, je pense que l'idée de « on est jeune, ça va, tout va bien », oui, on a des outils qui nous aident à passer le temps, contrairement à comment ils étaient avant, sauf que c'est une situation qu'on n'a jamais connue avant. Donc, qu'on soit jeune ou pas, ça ne change rien au fait que bah, c'est compliqué à vivre. Même si on a des outils comme Netflix, comme les consoles ou les n'importe quoi d'autre, les ordinateurs qui permettent d'aller sur YouTube ou tout ça, bah, ça nous fait passer le temps. Mais c'est pas ça qui va nous sauver de perdre notre sociabilité avec les gens en dehors, qui vont nous faire perdre toute la scolarité qu'on est en train de... Il y en a plein qui décrochent, hein, ça se voit, hein, donc ça n'aide pas en fait.
Puis quand on passe 6 heures sur un ordi, on a pas forcément aussi après de passer toute notre soirée à regarder des films ou à regarder notre téléphone.
Est-ce que vous savez à peu près, peut-être pas précisément, mais est-ce qu'il y a énormément d'étudiants qui ont lâché totalement les licences, qui ont déserté ?
Oui. Ouais. Je pense pas avoir de chiffres exacts, mais moi, juste dans mon entourage, je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont décroché, qui se prennent plus en cours parce que rester 3 heures devant un écran, ils n'arrivent pas à être concentrés.
Pareil. Dans ma licence, au début de l'année, j'en avais déjà une personne avec qui j'étais en groupe a lâché. Donc, du coup, je me suis retrouvé tout seul. Ça se voyait, en fait, au début, on était dans les TD, on était une bonne 25 ou 26, puis on s'est retrouvé à être 12. Donc c'était vraiment plus personne venait en gros, et ça. Et puis même des personnes que je connais personnellement, ils m'ont dit qu'ils lâchaient pas maintenant, mais qu'ils allaient lâcher à la fin de l'année.
C'est criant en master, parce que ça a été un petit peu l'année de la sélection en master, et une sélection qui a frappé dur. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des promotions de gens qui ont été sélectionnés, donc qui sont motivés pour en arriver là et qui ont les capacités de travailler et qui arrivent tout de même à être démotivés. Et ça, c'est un truc qui m'a plutôt choqué dans ma promotion, de voir des gens qui étaient motivés, qui se mettent doucement à lâcher.
Et est-ce que vous savez, juste pour donner une idée aux gens, quand on lâche comme ça, est-ce que vous savez ce que ces jeunes-là deviennent, du coup ?
J'ai des exemples, mais en général, c'est des gens qui se disent « écoute, l'année, elle est fichue ». Donc, je vais rien faire, en fait. Je vais rien faire. Dès qu'il y aura possibilité de sortir, je sortirai. Je vais partir en vacances. Ou alors, je travaillerai. Mais c'est un peu une année blanche parce que j'ai pas envie de passer mon diplôme cette année, parce qu'il y en a qui se font l'idée d'un diplôme qui n'aurait aucune valeur.
Comme on a pu entendre par rapport au bac, etc. l'année dernière. Très bien, et bien merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui à nos côtés, prenez soin de vous, et bonne continuation à tous dans vos filières respectives. Nous terminerons avec une citation de Rousseau qui vous concerne. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer, et moi je rajouterai qu'il serait temps de soutenir nos futurs praticiens qui paraissent déjà bien sages. Merci à tous et à bientôt sur Radio Roll Tanguy.
Merci.
Cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt sur le Bondy Blog Centre.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café.
Rejoins la rédaction
www.bondyblogcentre.fr.